Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chef d'entreprise, artiste sportif, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Frérot, chanteur et ancien membre du groupe Les Frérots de la Vega, connu d'abord dans les bars et restaurants du bassin d'Arcachon, puis du grand public sur The Voice. On aborde son parcours, pas forcément choisi au départ, puis ses débuts comme chanteur avec ses meilleurs souvenirs de scène et comment il compose ses chansons. On enregistre à la terrasse du Pestacle, son bar à vin situé à La Teste, et forcément, c'est un peu moins calme que d'habitude. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Jérémy.
Salut.
Et merci d'avoir accepté mon invitation sur le Pompon.
Merci beaucoup.
Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Du coup, je m'appelle Jérémy Frérot. Je suis connu en tant qu'artiste, musicien. J'ai commencé avec les Frérots de la Vega et maintenant je suis tout seul. J'ai sorti un deuxième album il n'y a pas longtemps qui s'appelle Meilleure Vie. Et nous sommes ici dans un bar à vin, mon bar à vin, qui s'appelle Le Pestacle, que j'ai ouvert l'année dernière, en mars dernier. Pendant le premier confinement. Et voilà, je navigue entre ces deux choses-là, ces deux passions. Ouais, c'est des passions en fait. Bouffer, boire et faire de la musique, c'est des trucs que j'aime beaucoup
cool.
faire. du coup, c'est ce que je fais. Et voilà, et j'habite sur le bassin d'Arcachon.
Ok, très cool, merci. Et on inaugure en plus, on réinaugure la terrasse.
Ouais, carrément.
Pour le coup, on est pile poil le jour de la réouverture. Mm-hmm. Le podcast sortira plus tard, mais c'est pas bien grave. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit?
Je voulais avoir du temps.
Ok.
Ouais.
Pour faire
ce que, enfin, vivre en fait. J'avais pas forcément envie de faire un métier.
Ok.
J'ai trouvé que l'école m'avait pas forcément donné envie de faire des choses pour gagner de l'argent, faire attention à ma vie. J'avais juste envie de profiter de la vie. J'avais envie de surfer. J'avais plutôt envie de faire du sport.
Ok.
Ouais, c'était ça.
Et la musique, tu t'y es mis à quel moment?
Et la musique, je m'y suis mis quand? Je m'y suis mis vers 17 ans, je crois.
Ok.
Un truc comme ça, ouais.
J'ai toujours eu
mon père qui faisait de la musique à la maison, tout le temps. Il y a toujours eu de la musique à la maison.
Ouais.
Mais j'ai vraiment commencé à m'y intéresser vers mes 17 ans, quand il m'a offert ma première guitare. À un Noël, je me rappelle, c'était une Lag, une Baby Summer, qui a fini fracassée contre un mur.
Pourquoi emportée par par la foule?
Ma compagne de l'époque qui a pété un plomb.
Ah oui, d'accord, effectivement.
qui n'avait pas aimé ce que j'avais fait. Et du coup, à 17 ans, et puis avec Internet, en fait, maintenant, ça va vite. Hein.
Ouais.
Et puis la guitare, c'est assez facile pour débuter un instrument.
Mm-hmm.
Donc voilà, à 17 ans.
Tu chantais déjà
ou c'était vraiment pour m'accompagner.
Ok, c'était vraiment pour t'accompagner, ouais. Cool.
Ouais, j'ai toujours vu mon père faire ça, en fait. Je chantais des chansons brésiliennes sur son canapé. Du coup, j'ai voulu faire pareil.
Yes.
Et j'ai voulu reprendre des chansons de l'époque quand je commençais.
Ouais, très cool. Et alors pendant ton lycée, où tu as passé quelques années de plus par rapport à la moyenne, c'est parce que tu as fait 5 ans de lycée, c'est ça?
Comment tu sais?
Je me renseigne, attends.
Ah ouais. J'ai fait 5 ans de lycée. J'ai fait deux années de seconde.
Ouais.
Après, mes parents, ils voulaient absolument que je fasse S. Donc j'ai été en S.
Ok. Tu sais ce que tu voulais faire là? Parce qu'à ce moment-là.
Ouais, je voulais être prof de PS.
Prof de PS.
Ouais. Mes parents sont profs de PS. Donc je voulais être prof de. J'ai vu la vie qu'ils avaient, en fait. J'ai vu le temps qu'ils avaient. Je me suis dit, vas-y, je vais faire pareil. Je veux la même vie. Et du coup, je voulais aller. On m'avait dit, il faut un bac S pour aller en STAPS. alors que c'était pas vrai du tout. Mais voilà, j'ai galéré à essayer de passer ce bac S. La première S, je suis passé parce qu'on avait le droit de dire je passe.
Okay.
Tu sais, tu te rappelles
pas
de ça?
Ouais.
T'as été en première?
Ouais.
On avait le droit de dire non, mais même si vous voulez que je redouble, je passe quand même.
Okay.
Du coup, je l'ai pas redoublé.
Ouais.
Et la terminale, où je me suis bien vautré au bac, sans rattrapage, rien du tout, je suis même pas allé au rattrapage.
Mais donc tu l'as eu?
Et je l'ai eu la deuxième fois.
J'ai fait
deux terminales aussi. Ouais. Et la deuxième fois, je l'ai eu et je suis allé en STAPS.
Okay.
Et puis en STAPS, je me suis rendu compte aussi que c'était pas vraiment un truc que j'avais envie de faire.
Ouais.
Et heureusement que la musique est arrivée.
Ouais, et quand tu dis justement la musique est arrivée, comment ça commence en fait? Et moi j'ai envie de comprendre tout le processus pour te dire à un moment donné, bah, en fait je peux vivre de ça quoi.
Je me rends compte que là-dedans, c'est là où je me sens le mieux parce que c'est là où j'arrive à faire réagir des gens. Je me sens un peu naze avant tout ça.
Okay.
Un peu superficiel, tu vois.
Ouais.
Je suis très sur l'image, sur...
Mais ça te pesait?
Non, c'est pas que ça me pesait, mais j'avais l'impression que j'étais un bon à rien, quoi.
Ok.
Et en ayant trouvé cette musique-là, j'ai vu que j'arrivais à construire des choses, moi, à créer quelque chose et à faire réagir les gens. C'était une des premières fois où j'arrivais à faire ça avec le sport.
Mmh. Ouais.
Et du coup, étant un peu feignant sur les bords, la carrière sportive s'est vite arrêtée.
Est-ce que t'aurais pu? Enfin,
j'avais un bon niveau en judo, j'étais pas assez assidu pour aller tous les jours aux entraînements. Je voulais plus voir mes potes et faire la fête, quoi. Comparé à mon frère, lui qui a tout fait, qui a été au Pôle France, machin.
Ok. Nice.
En ayant vu ce qu'il a fait, j'étais assez content de ne pas y aller.
Mais, j'adore son chemin, c'est très bien.
Mais voilà, la musique, je m'y suis accroché parce que je sentais que c'était ça que je voulais faire. Ça n'a pas été direct le fait de me dire « vas-y, c'est bon, je me lance dans la musique ». J'avais pas envie d'y penser en fait, j'osais pas me dire tiens ça va être mon métier.
Okay.
Parce que je l'ai jamais apprise la musique, j'ai toujours fait autodidacte avec internet, donc une partition je la lis pas, je fais ça tout seul quoi. Et c'est en rencontrant Flo de la Vega qui m'a donné des ailes en fait, qui m'a donné envie de continuer, d'aller plus loin, et tous les jours il y avait un truc nouveau. Tous les jours, il y avait des gens qui nous suivaient. Tous les jours, il y avait « Oh, on va faire un concert. Oh, on va acheter une façade pour jouer dans tous les bars du bassin d'Arcachon. » Et puis, un mois après, « Ah, on va poster une vidéo. Ah, il y a des vues.
Okay.
Ah, et il y a des gens qui veulent nous signer dans un label. » Et puis, voilà. Et tout se suit et tout arrive. Et ça a monté pendant 6 ans, en fait.
Ouais.
Et puis au moment où en fait j'ai commencé à voir que il y avait des labels qui nous demandaient, c'est là où j'ai pris ma première grosse décision de ma vie après 3 ans de STAPS.
Mmh.
Après 3 ans de STAPS.
Ah, donc tu continuais à la STAPS?
Après 3 ans de STAPS, j'ai appelé mes parents en FaceTime parce que j'étais en STAPS ma dernière année, j'ai fait STAPS à Bondy.
Okay.
Bondy, c'est la banlieue parisienne,
c'est ça,
à côté de Saint-Denis.
Tu es en train de chercher. Okay, ouais.
J'y étais parce que en fait, Flo, lui, exerçait en tant que professeur de PS à Saint-Denis.
Mm-hmm.
Donc il fallait qu'on soit à côté pour pouvoir un peu faire de la musique.
Mm-hmm.
Et donc j'ai été faire ma dernière année de STAPS à Bondy. Au milieu de l'année, je suis plus allé en fait.
Okay.
j'ai vu que la musique commençait à bien me payer, machin, donc j'ai appelé mes parents et j'ai dit voilà. J'arrête, je fais ce que j'ai envie de faire.
Ouais.
Et c'était la première fois que je leur disais ce que je voulais faire, quoi.
Ok. Bah oui, parce que tu disais effectivement, c'est un peu, ils ont décidé pour ton bac, pour des choses comme ça.
Bah ouais, ils ont. Bah après, je leur en veux pas du tout. Hein, c'est des. Ouais. Il va très vite, lui.
Ouais. Et voilà, la beauté de l'extérieur.
je leur en veux pas du tout parce que voilà, premier enfant, t'as envie. Enfin, t'as envie qu'ils réussissent, quoi. Donc, et vu qu'ils voyaient que j'avais pas forcément envie de faire quelque chose, ils le faisaient pour moi.
Ouais.
Et ouais, là, c'était vraiment la première fois où je me prenais en main. Et bon, ils n'ont pas été très chauds direct. Hein. Ils m'ont dit non, mais là, c'était bon, bah, tu te démerdes tout seul. Là. Tu vas bosser pour aller chercher ton loyer, machin. Parce que bon, la musique ne me payait pas mon loyer au début. Là.
Okay.
Et je faisais pion. Je faisais pion à Paris.
Yes.
Et j'ai fait pion à Paris l'année où j'ai fait The Voice.
Yes.
Ça, c'était drôle aussi parce que quand c'est passé,
ouais.
C'était ingérable.
Ah ouais.
C'était ingérable. Les gamins, ils m'ont. Enfin, j'avais plus du tout de pouvoir. C'était pas possible.
Ouais, ouais.
Donc après, j'ai arrêté et puis voilà, j'ai continué. Mm-hmm. J'ai continué la zik et puis on sait après ce qui s'est passé avec les frérots.
Yes.
Après The Voice.
Ouais, on va revenir à tout ça. Ouais. Mm. Tu te souviens de ton premier souvenir, le moment, et tu le disais tout à l'heure, le moment où quand t'es face à un public et tu comprends que tu crées quelque chose et qu'il se passe quelque chose, et en fait le terme émotion me vient en tête, quand tu transmets des émotions aux gens, en fait,
est-ce que je m'en souviens,
est-ce que tu te souviens de la première fois que ça arrive et où là tu dis ah ouais,
bah ouais, je m'en souviens, enfin c'est pas des choses précises, mais je me souviens de moments dans ces bars, notamment dans les bars d'ici là.
Ouais.
Notamment à Lecheona.
Okay.
On faisait des concerts là-bas. Après, tout l'été, en fait, on était sauveteurs sur la plage de la Sali. Ouais. Et le soir, on allait faire nos concerts dans les bars. Et dans ces bars-là, bon, c'était un peu... C'était très amateur. mais ouais, on prenait beaucoup de plaisir et puis les gens revenaient, en fait, chaque fois, en fait, on commençait à avoir des fans qui venaient tout le temps, et alors que c'était des reprises très mal faites. Mais il y avait un côté frais, il y avait un côté spontané, il y avait on chantait bien quand même.
Ouais. Quand même, ça aide.
Ouais. Et voilà, donc c'est ça qui nous plaisait, en fait, de voir les gens revenir et et sentir que ça leur faisait du bien.
Ouais, très cool. Et The Voice, à quel point ça a été un déclic, je sais pas, un tremplin, déjà, comment t'as vécu l'aventure? Je crois que vous y êtes pas arrivé du premier coup, je sais plus, dans ces bouts de la...
Bah, The Voice, pendant 4 ans, ils nous ont demandé.
Ah, c'est eux qui sont venus toquer, ok.
Et on disait non.
Pourquoi?
Bah, parce que c'était pas un truc qu'on voulait faire, on se sentait pas à l'aise avec ça, et ouais. Puis on n'avait pas envie d'y aller pour y aller, quoi. On voulait que ça serve à quelque chose.
Mm.
Et au bout de 4 ans, on avait un album en cours, on était en train de l'enregistrer, on avait des chansons, et on s'est dit, bah, tiens, là, du coup, si on fait The Voice, ça va exploser, parce qu'on aura une énorme pub, même juste sur un passage.
Clairement.
Et donc, on a accepté. Et pendant qu'on faisait The Voice, la journée, on répétait.
Ouais.
Et le soir, on allait en studio enregistrer.
Ok.
Ouais. On énorme. A fait ça pendant 6 mois. et du coup, bah, quand on est sorti de The Voice, on pensait pas aller aussi loin, mais quand on est sorti, bah, on avait le premier single direct prêt. Alors, 2 semaines après qu'on soit sorti, le titre est sorti, quoi.
Perfect timing, quoi. Trop cool, ça. Et l'aventure, comment tu vis ça? Parce que tu l'as dit avec ton taf de pion au lycée, mais déjà la visibilité, quoi. Enfin,
ouais, c'était assez hallucinant, là, le raz-de-marée médiatique. Ouais.
Comment tu le vis ça? Parce que c'est peut-être pas sortir de l'ombre, parce qu'au final, vous commenciez peut-être à être connu.
Ouais, on était assez connu quand même, mais. Bah, comment on l'a vécu? On l'a vécu un peu dans notre bulle, vu qu'on était deux, on était plus forts, quoi. On pouvait se reposer l'un sur l'autre, alors que quand t'es tout seul dans cette aventure, je trouve que c'est violent.
Ouais. Les épaules, ouais.
Et donc on était un peu dans notre monde et du coup on n'était pas très bien vu, je pense.
Ok.
Parce que ouais, on à deux on était plus forts et du coup ça embêtait un peu, quoi.
Mm-hmm.
Mais ce qui a été cool dans ce thème, je pensais pas, c'est que j'ai appris des choses, en fait. J'ai appris à être sur scène.
Ouais.
J'ai appris à avoir de la prestance. J'ai appris à me déplacer. J'ai appris j'ai pas appris à chanter vraiment.
Mm-hmm.
J'ai appris à m'échauffer.
Mmh.
Mais ouais, j'ai appris vraiment à jouer en live parce que avant The Voice, je jouais les mains dans le dos. Flo jouait de la gratte. Quand je jouais pas de la gratte, quand j'ai lâché ma gratte, je jouais les mains dans le dos. Okay. Je savais pas quoi faire de mes mains. Et je regardais un peu mes pieds et je me concentrais à chanter. Et après, après The Voice, je deviens un peu plus à l'aise et je m'ouvre beaucoup plus.
Ok, cool.
Donc, ouais, carrément.
Ça a clairement aidé au point de vue scénique et tout.
Ouais, ouais.
Ok. Et moi, j'ai envie de comprendre aussi, parce que qu'est-ce qui a fait la diff en fait ? C'est quoi ? C'est beaucoup de travail de votre part à tous les deux, un peu de chance, un peu. Parce que, en fait, ce qui est très cool là, de t'avoir, c'est que je me dis, il y a plein de gens qui font de la musique et qui veulent percer. Tu vois, qu'est-ce qui fait que toi, t'en es là aujourd'hui ? Bon, et on va parler de la suite, bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça a pris ?
Je pense que c'est vraiment la fraîcheur et la sincérité qu'on avait dans nos reprises, avant The Voice même. On l'a même vu quand on faisait des reprises, on posait la cam, on se mettait sur un canapé et on faisait nos prises, et même ratées, et même on laissait les rater. Les gens, ils étaient trop contents. Et quand on a commencé à étoffer un peu le truc, à faire des montages, des vidéos plus poussées, les vues diminuaient. Parce que les gens voulaient voir du vrai, voulaient voir de l'authentique.
De l'authentique, ouais.
Et je pense que ça a vachement fonctionné. Après, il y a forcément ce truc nouveau où on voit un duo arriver qui fait des harmonies. C'était pas, il y en a pas beaucoup. J'en connais pas en France.
Ouais.
Et puis après, il y a eu énormément de travail. Ça, c'est indéniable. J'ai passé des heures et des heures sur scène, des heures à jouer, des heures à chanter, à réfléchir sur des clips, sur des machins. Enfin, voilà, c'est vraiment beaucoup de travail.
Mmh, clairement.
On travaille énormément pour montrer aux gens que c'est facile.
C'est ça.
Alors que c'est pas facile du tout. C'est exactement comme un sportif.
Ouais.
Il, pour faire un marathon easy, le mec il court des kilomètres et des kilomètres pour arriver devant les caméras et te dire putain, le mec il court ça en deux heures, comme il fait.
C'est ça. Et tu ressens quoi dans tout ça aussi? C'est ça qui est génial, c'est vraiment. Enfin, moi j'imagine souvent un truc qui se passe dans les tripes en fait. Et déjà, quand tu te mets à chanter devant des gens, quand tu disais les réactions. Et toi, il se passe quoi? Et surtout, à quel moment tu valides dans ta tête en mode bah ouais, en fait, je vais aller au bout. Enfin, coûte que coûte, quoi, en quelque sorte. Et déjà, est-ce que tu te dis ça ou pas?
Au bout de quoi de...
Bah, au bout des... enfin, c'est-à-dire que quand tu commences dans la musique, tu te dis, bon, bah, je vais continuer. Ouais. À fond, je vais en faire mon métier.
Bah,
c'est que tu le ressens vraiment?
En fait,
ou
on n'a jamais vraiment poussé le truc. On a toujours eu des choses, je te dis, qui sont arrivées à chaque fois.
Ouais.
Et du coup, on a toujours été dans l'ascension. Jusqu'à ce qu'on s'arrête, on était tout le temps dans l'ascension. Donc... il n'y a jamais eu de moment down un peu où on se dit bon allez vas-y, il faut pousser, il faut bosser, il faut y aller. Ça a toujours évolué, donc je ne me suis jamais posé la question de bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Okay.
Il n'y a pas eu de doute parce que
il n'y a jamais eu de doute. On a toujours été, on a toujours foncé quoi.
Yes.
Et c'est plus maintenant. Je me dis bah je ferai pas ça toute ma vie, je vais pas être chanteur toute ma vie, je le sais, parce que même si je le voulais, je pourrais pas. Aujourd'hui il y a tellement, on devient tellement des objets, on est consommable, on est périssable, et du coup il va falloir savoir à un moment donné s'arrêter. C'est pour ça que je me lance aussi à côté dans un autre truc, dans la gastronomie française. C'est un truc qui me plaît, et je pense que si la musique s'arrête, je ferai ça. C'est plus maintenant que je me dis ça, mais en fait, je ferai tout le temps de la musique, toute ma vie, mais ce ne sera pas la même manière, je pense, toute ma vie. Il y aura plusieurs trucs, plusieurs histoires.
Ouais, clairement, c'est ça qui est cool.
Là, je suis dans l'action, je suis devant les caméras, machin, je suis sur scène. Peut-être que dans un autre temps, j'écrirai peut-être des chansons pour d'autres. J'aiderai des gens à évoluer sur scène, parce que c'est ça que je kiffe en fait. Moi, le studio, c'est pas un truc qui me fait kiffer. J'aime être sur scène, voir les gens et chanter avec eux.
Ouais.
Voilà, il y a plein de manières de faire de la musique. Il n'y a pas que être sur le devant de la scène.
Mmh, clairement. Et tu as dit, tu as parlé des autres aussi. Mais l'importance des autres ouais, d'être entouré, je crois que t'aimes pas trop être seul.
Non, j'aime pas trop. Et, moi, je trouve que cet art-là, il est fait pour être partagé, en fait, pour être ensemble. Tu fais pas ça dans ta chambre et tu te le gardes tout seul. C'est, ça sert à rien. C'est l'art le plus diffusé dans le monde. C'est l'art qui ne s'arrêtera jamais. On écoutera tout le temps de la musique. C'est quelque chose qui va nous suivre tout le temps.
Ouais.
Et je sais plus ce que j'étais en train de dire. C'est génial. Hein. Ça m'arrive. En fait, j'ai plein d'idées et puis.
Ouais. Je comprends. Ça m'arrive d'avoir le même problème, donc pas de problème.
Tu parles. Et puis j'oublie ce que je dis. Je bois peut-être un peu trop aussi.
Bon, bah, on va revenir à ce dont je voulais parler après. Les Frérots de la Vega, pour un rapido, pendant 6 ans, vous avez été en duo.
Ouais.
Votre dernier concert à Bordeaux en 2017.
Ouais.
Tu le vis comment ?
Ah, c'est compliqué. Bah, en fait, ça a été une tournée compliquée. Parce qu'on a annoncé. On a annoncé la séparation avant de partir sur 25 dates.
Ouais.
Les dernières 25 dates des Frérots. Donc, ça, c'était. En même temps dur et en même temps hallucinant d'émotion parce qu'il y avait à chaque fois t'avais 6000 personnes qui pleuraient à la fin du concert.
Putain.
Et on regardait bien, il n'y avait pas que les nanas qui pleuraient, donc c'était vraiment c'était ouf quoi. C'était puissant, il y avait un truc qui se passait entre nous à chaque fois, entre le public et nous et avec notre équipe aussi. Ça a tissé vraiment des liens énormes. Et donc pendant 25 dates, on se disait, bon, bah là, c'est la dernière fois qu'on joue dans cette ville. C'est la dernière fois qu'on joue dans cette énorme salle. Est-ce que je rejouerai ? Est-ce que je referai des tournées de Zénith ? On ne sait pas. Et pour arriver sur cette dernière énorme date de 30 000 personnes au Quinconce.
Le feu, quoi.
ouais, c'était assez hallucinant. Est-ce que je l'ai bien vécu ? Ouais, je l'ai bien vécu, mais en même temps, je sais pas. Je pense qu'on n'avait pas, le concert pour 30 000. C'est trop dur. Faut beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de choses pour toucher jusqu'au fond les gens, tu vois.
Tu parlais en termes de technique, hein, en termes de son et tout, et même de visuel pour le coup, parce que si t'es 30 000 et que t'es tout au fond, tu vois pas trop les deux
carrément,
qui sont en scène.
Bah, il faut des il faut des deux faces, une face pour nous et une face plus loin pour que les gens aient pas de décalage énorme entre ce qu'on fait et ce qu'on dit.
Ouais.
Et donc il y a eu des trucs techniques comme ça qui ont fait que je pense pas que les 30 000 personnes étaient hyper heureux de voir ça, mais en même temps voilà, on a quand même ressenti cette dernière, j'ai pas l'impression de l'avoir vécu en fait, ce moment.
Ok.
c'est tellement un flash, c'est tellement bizarre comme sensation que du coup, je me souviens juste d'être de l'intro de ce concert où on est derrière un drap blanc et on se regarde et c'est dur et de se dire putain là c'est la dernière fois qu'on se regarde comme ça. Je me souviens de faire une chanson que j'avais écrite juste pour ce concert-là qui s'appelle Revoir. Voilà, je me souviens de ça. Je me souviens des musiciens qui pleurent, je me souviens des gens aussi qui pleurent. Mais voilà, ça a été vraiment un espèce de flash. Je pense que le contre-coup, je l'ai eu 4 ans après.
Ah ouais ?
Enfin, pendant 4 ans, jusqu'à maintenant.
Ouais, c'est ça, oui.
Je l'ai maintenant, en fait. Je l'ai eu tout le long de mon premier album solo.
Ouais.
J'ai eu le contre-coup de tout ce qui s'était passé. J'en ai pas mal chié.
Tu m'étonnes.
J'ai été assez triste et je me suis. J'ai fait beaucoup la fête. Ouais, pour un peu oublier, ouais. Je me suis un peu fait mal.
Ah.
Et en fait, c'est vraiment la scène de défendre ce premier album solo sur scène.
Ouais.
Ça m'a sauvé un peu. Okay. Ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de voir que j'arrivais à faire ça, que je savais faire ça et que c'est ça qui me plaisait de ouf. Et du coup, bah, J'ai continué là-dedans. Mmh. C'est à ces moments-là où je me disais, bah, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis légitime à faire ça tout seul ? Est-ce que... Et du coup...
Est-ce que ça a marché aussi ?
Est-ce
que ça va prendre, quoi ?
Et la scène m'a vachement aidé à partir sur un deuxième.
Yes.
Un deuxième album et plus heureux, plus joyeux, parce que je me sentais mieux.
Ok. Et tu te... La première fois que tu remontes sur scène et tout seul ?
Ouais.
Ça t'a fait quoi à un moment?
Moi, je me suis senti puissant.
Ok.
Mmh. Ouais, parce que j'étais sûr de moi.
Ouais.
Parce que j'avais beaucoup travaillé aussi. J'avais jamais autant travaillé qu'avec les frérots. On était un peu branleurs. Mais c'était ça que les gens voulaient,
c'est
en fait.
Ce qui faisait
les gens, ils voulaient nous voir chuter. Ils voulaient nous voir dire n'importe quoi. Enfin, c'était ça que les gens voulaient.
Alors tu dis ça, j'ai l'impression que c'est un peu une pression et on me dit attendez l'erreur mais c'est négatif ou
non pas du tout pas en du fait tout, okay. On adorait quand il se passait des choses pas prévues,
côté authentique comme tu disais quoi et... ok super,
les gens ils voulaient ça quoi.
Ouais.
Sur le style de musique tout seul dans lequel j'étais parti, je pouvais plus faire ça, c'était pas possible. C'était devenu beaucoup plus sérieux, plus pro. Mmh. Donc il fallait bosser énormément, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je suis arrivé, remonté à bloc sur ma première date tout seul, c'était à l'Olympia à Arcachon.
Yes.
J'ai fait deux Olympiades d'affilée. Il y a Flo qui est venu, donc j'étais remonté et c'était génial quoi, parce que j'ai vu dans les yeux des gens que ah ouais d'accord c'est bon, il sait faire ça.
Ouais. Hyper stylé. Mmh. T'as pris un an entre les deux, c'est ça, entre le.
Ouais, j'ai pris un an, j'ai fait un enfant.
Yes. Ça, il paraît que ça prend un peu de temps.
ça continue. Hein.
Je me demandais aussi. Hein, putain, j'ai perdu la question, tu vois. Bah, c'est... ça m'arrive aussi. Mais
arrête de boire.
mais c'est la reprise des terrasses, alors forcément, en plus, avec le temps qu'il fait aujourd'hui. Ouais, après, quand t'as. En fait, si je voulais comprendre aussi comment tu te prépares à un concert, et quand tu parlais tout à l'heure de derrière le drap blanc avec Flo, parce que j'avais vu, pour le coup, j'ai regardé une interview sur Europe 1 de fin d'année dernière où elle te sort plein d'anecdotes avec plein de trucs de ce qui se passe à Bali, de plein de trucs comme ça.
Manarino. Très,
très drôle. Exactement, très drôle ce qu'elle a fait pour le coup. J'invite les gens qui nous écoutent à aller voir ça. Parce que tu sniffes des huiles essentielles avant de monter sur scène, c'est ça. C'est quoi ton petit rituel avant de monter justement ? Est-ce que t'en as un au final ?
Bah ouais, c'est ça. Je me mets avec les musiciens.
Ouais.
On essaie d'être un peu en cohésion.
Mmh.
Mais en fait, c'est toute une journée qui se déroule qui fait que. Le concert se passe bien. Il n'y a pas d'hiérarchie dans ma tournée, du chauffeur du bus jusqu'à moi, jusqu'au musicien. Il n'y a pas d'hiérarchie, on est tous égaux et on doit tous prendre part au spectacle. Le technicien aussi, s'il n'est pas bon, bah, ça ne marchera pas.
Ouais.
Et ça, les gens le ressentent parce que du coup, c'est toute une équipe qui arrive sur ce public-là et c'est ouf. Tout le monde fait partie du show. Mmh. Donc on s'entraide toute la journée parce que toute la journée, les mecs, ils montent la scène et puis ils la démontent le soir et ça recommence sur une autre ville.
Il y a un peu de taf, ouais.
Donc, c'est des gars, c'est des surhumains, les mecs. Hein. Ils sont les premiers levés, les derniers couchés.
Mmh, clairement.
Et toi, t'arrives les pieds sous la table et puis tu chantes et puis voilà. Donc on essaie de faire attention à tout le monde. Je pense que le moment où on commence à sentir l'adrénaline monter, c'est à 18h.
Mm-hmm.
On fait ce qu'on appelle la fréro. C'est un apéro.
énorme.
Où tous les techniciens arrêtent de travailler parce que voilà, ils ont fini de monter la scène, on a fait les balances, on a fait les répétitions et on se retrouve autour d'une table et on boit un coup et on se met dans l'ambiance, on se raconte des conneries, machin, voilà, il y a tout ce processus. Puis on mange, puis on va dans nos loges et on se prépare tous ensemble dans la même loge.
OK.
Et voilà, ça s'échauffe et puis vient le moment où il faut être derrière la scène pour monter. Donc tous les techniciens viennent nous faire un câlin avant de prendre leur poste.
Ouais.
Donc les ingénieurs du son à la face, les ingénieurs lumière viennent nous faire un câlin avant d'aller
C'est génial.
Prendre leur poste. Et puis après, bah, y a, généralement, il y a une musique qui annonce en introduction,
ouais.
qui tourne toute seule.
Ouais.
Et à ce moment-là, bah, on se met un peu en ronde et on se serre fort. Et on prend cette huile essentielle dans le nez, juste là. Qui nous, cette odeur-là, en fait, quand je la sens ailleurs, je me dis, oh putain, il y a un concert, il y a quelque chose. Il faut que je joue.
Énorme.
C'est ouf, cette sensation-là. Et elle nous met
Une
boost. Ouais,
direct, c'est de la menthe poivrée. Hein,
c'est de la menthe poivrée. Ouais, donc,
putain, j'aurais dû t'en ramener.
Dans le zen, là, c'est, ouais, c'est vénère. Ouais. Mais voilà, on va sur scène avec ça. Donc on est assez remonté, finalement.
Ok, ouais. Et c'est naturel, ça va.
C'est naturel, ouais. Ouais. J'ai déjà essayé en fumant, c'était horrible.
Ouais.
J'avais l'impression que tout le monde me captait et j'étais tout mou. Bourré aussi, c'est nul parce que tu deviens tout mou à un moment donné.
Ouais.
Donc être alerte et être à jeun, c'est quelque chose de beaucoup plus fiable et beaucoup plus plaisant. Et on capte vachement mieux les gens.
Ouais. Ça me fait penser à Audrey Bocahut que j'ai reçu sur le pompon et qui a été mince, je sais plus, violoncelliste, non, je sais plus. Elle était en tout cas musicienne pour Johnny Hallyday et pour d'autres artistes, ouais. Et elle se faisait un petit verre de rouge avant de monter sur scène, quand même, histoire de.
Ouais, mais le verre de rouge, détendre,
ça va. C'est vraiment histoire de. Et puis c'était bon pour la voix aussi de temps en temps, peut-être. Avec le miel. Ça...
ouais, c'est vrai. Le rouge, apparemment, pas trop,
en
mais
petite quantité, ouais, juste
ça,
un verre.
Ça peut faire du bien aux cordes vocales.
Et comment tu fais aussi pour écrire une nouvelle chanson? Comment ça se passe, en fait, ce côté écriture? Moi, j'ai l'impression que c'est t'es au bord d'un lac, il n'y a personne, t'es tout seul.
Non,
mais non, comment ça se passe, justement?
Elle est toute nue. Qu'est-ce qu'elle fait?
N'importe quoi.
Donc
oui, comment ça se passe, ton processus
d'écriture?
Mon
processus, en fait, il est constant. Je me pose pas sur une table ou au bord d'un lac pour écrire des chansons. J'y pense, en fait. Je pense, ouais, à un sujet et souvent, enfin, tous les jours, en fait, je le mûris sans écrire.
Okay.
J'ai des images, j'ai des bouts de phrases. Et quand je sens que tout est prêt, c'est là où je pose sur le papier et je commence à composer. Et du coup, ça vient vachement plus vite. Et c'est comme ça que je compose, du coup. Et donc, ça peut... Enfin, j'aime pas me foutre à table et vas-y, on y va. Alors après, il y a des séminaires qui se passent. Là, on y va vraiment pour ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Les chansons qu'on fait ne sont pas forcément pour nous. Mais ça, c'est un processus. C'est un autre processus. Mais moi, le mien, tout seul, en fait, c'est vraiment... Je mûris une chanson, j'ai des idées, je prends des phrases que je lis ou que j'entends ou des choses que je vois et qui me plaisent et dont je veux parler. Et du coup, j'essaie de créer un champ lexical autour de toute cette idée-là. Et ouais, après, quand je suis prêt, je le pose.
Ok, cool. Et ça peut prendre genre combien de temps?
Ah bah, du coup, il n'y a pas de règle.
Il n'y a pas de règle.
Il peut y avoir une chanson en un jour comme une chanson en 3 mois, quoi.
Ok. Et ton premier album, Matrioshka?
Ouais.
Ça fait quoi? L'idée qui me vient en tête, c'est d'accoucher d'un bébé, en quelque sorte, parce qu'au final, c'est ton premier, ouais, premier bébé musical.
Ouais.
Là, tu le vis comment? Il a été très bien reçu, si je ne m'abuse.
Ouais, carrément.
Est-ce que tu peux nous en parler, là aussi?
Bah, c'est le premier album tout seul, donc j'avais besoin de me démarquer un peu de la musique des frérots de la Vega. Il, ouais, fallait que je change de registre. Et puis d'ailleurs, quand on regarde un peu dans chaque album des frérots, on s'autorise une chanson tout seul.
Mm-hmm.
Les chansons qu'on faisait tout seul, elles n'avaient rien à voir avec les frérots à deux.
Ouais.
Et donc ça, on sentait que j'allais quand même changer de registre. Et voilà, j'étais dans un mood un peu mélancolique, un peu froid sur les bords aussi. Mais puissant, du coup, j'avais besoin de cette musique un peu islandaise à la Esgir,
mm-hmm,
avec de la musique un peu électronique. J'avais envie de poser un peu cette guitare et d'entendre de la musique un peu plus, un peu moins naturelle,
ouais,
pour avoir principalement des nappes un peu de sons qui se superposent pour laisser vachement d'espace à la voix. C'est ça que j'avais envie de faire. Quelque chose d'assez théâtral.
Ok.
Et puis finalement, ça a été vachement bien accueilli. Mais sur scène, j'ai jamais réussi à le laisser froid, en fait, ce disque. Sur scène, je ne peux pas faire autrement que être très expressif, très chaud, très. Je veux partager, donc être froid à ce moment-là, c'est pas possible.
Ça paraît compliqué.
Et ouais. Du coup, je l'ai rendu vachement festif, cet album, sur scène. Mm-hmm. Et ça, les gens l'ont vachement apprécié. C'est pour ça que sur le deuxième album, je suis devenu beaucoup plus heureux, plus chaud, et j'ai enlevé toutes ces parties électroniques.
Ouais.
Et j'ai fait rentrer des instruments comme une basse, une vraie batterie, avec des vraies partitions qui jouent, une basse qui chante, quoi, quelque chose où on peut chanter dessus. Et pour le coup, ça réchauffe vachement plus. Et voilà. Mais ouais, Matrioshka, il est vraiment à l'image de comment j'étais à ce moment-là. Froid, mélancolique. Je me cherchais, en fait. J'avais besoin de faire ça. J'avais besoin de passer par cet album pour trouver ce que je voulais faire. Mmh. Et voilà, les gens l'ont accepté. Les gens m'ont rencontré comme ça.
Ok. Mais ça me fait penser, en préparant l'interview, j'ai vu effectivement ton deuxième album. Je me suis dit, c'est hyper personnel. Et ouais. En fait, c'est exactement ça. Et alors, ça me fait penser à chaque fois à Ben Mazuet. Et pour le coup, vous avez écrit ensemble, c'est ça? Ouais.
Ouais, on a depuis que je fais de la musique, j'ai écrit avec lui. Depuis les Frérots de la Vega,
exactement.
On se suit pas mal. Ouais.
Et ça m'a fait penser à lui, à ses albums aussi qui sont hyper perso.
Ah bah lui, ouais.
Ouais.
pour le coup,
ça y va. Ouais. Et donc ouais, ton deuxième album, je trouve que enfin hyper positif carrément. Et tous les titres, j'ai trouvé très perso. Enfin, je m'en sors bien. La naissance, le pestacle, où on est, le bonheur.
Ouais, mais en fait, sur le premier album, je sors de l'histoire des Frérots. Et les Frérots, on avait... c'est pas mal Flo qui a instauré ça, mais il y avait une écriture assez pudique. Et du coup, on passait vachement par des seconds sens. On essayait que les gens ne comprennent pas tellement. Il y a toujours, dans la musique des Frérots, dans les chansons des Frérots, il y a toujours un second sens.
Okay.
C'est pas le premier sens qui doit vous les livrer,
quoi, mais ouais. C'est vraiment aller chercher au deuxième étage. Quoi.
Et ça, voilà, cette écriture pudique, du coup, je l'ai gardée pour le premier.
Ouais.
J'ai eu un peu ce... Et en même temps, ça marche vachement bien avec pour mettre beaucoup de poésie. Mais avec cette écriture-là, tu t'éloignes un peu les gens de ta vie privée. Enfin, pas de ta vie privée, mais...
Ton côté intime, entre guillemets.
Ouais,
quoi.
Ton côté intime, c'est ça. Et sur le deuxième album, j'ai vachement plus simplifié l'écriture. J'ai voulu aller plus droit... avec du premier sens tout le temps pour qu'on comprenne dès la première écoute, en fait.
Ouais.
Et finalement, avec ça, tu te rends compte que tu te livres vachement plus simplement et tu touches plus facilement les gens.
Clairement.
Ouais. Et ça réchauffe aussi.
Ouais. Ouais, d'accord. Je l'écoutais dans la voiture. Oh non, ça fait deux jours que je fais que t'écouter pour préparer l'interview. J'ai toutes tes chansons en tête là. C'est laquelle que tu préfères?
Je les aime toutes après, mais
est-ce qu'il y en a une où tu mets plus de toi dedans, même si au final c'est tout le temps de toi? Mais
ouais, c'est tout le temps de moi. Je pense que c'est le regain, j'aime bien la chanter.
Ouais.
Mais en ce moment, je suis vachement plus sur Fais-le.
Pourquoi?
Puisque je suis en train de la travailler.
Ok.
Pour un deuxième single.
Ouais.
Et un clip. Du coup, ouais, je la joue pas mal en ce moment.
Ok, très cool.
Et puis c'est une chanson que j'ai envie d'écouter en ce moment parce que elle donne envie, surtout maintenant. Là, on est en train d'être libéré un peu et on a envie de faire des choses. Et du coup, fais-le avec courage. Enfin, voilà, c'est ça qu'on a envie de faire en ce moment, quoi.
Exactement, on est bien d'accord. Et je me posais quand même la question, c'est quoi être un homme?
Tu sais quoi, il y a 50 ans, j'aurais pu te répondre.
Ouais.
J'aurais pu te dire, un homme, c'est ça, il est comme ça, il doit faire ça.
Yes.
Aujourd'hui, on ne peut plus y répondre, ça, c'est bien. C'est vachement bien parce que il devient plus complet en fait. Plus ouvert, plus féminin. On est en train de faire rentrer du féminin chez nous et ça c'est génial. On ne dit plus des phrases comme sois un homme, on ne dit plus des phrases comme arrête de pleurer.
Sois fort.
On a le droit d'être fragile, on a le droit d'être consolé. Ouais. Et ça nous rapproche énormément des femmes et de l'égalité des genres. Et ça, c'est un point incroyable. Alors après, on est différents par nos hormones, par nos corps, mais on est en train de se rapprocher dans la manière de penser. Et ça c'est plutôt pas mal, tu vois. L'homosexualité, par exemple, elle est en train de rajeunir énormément, en fait. On voit de l'homosexualité au collège, je crois, maintenant.
Ouais.
Tu vois. Et ça, c'est incroyable. Avant, ça, on aurait trouvé ça... à mon époque, ça aurait été extraterrestre, quoi. Là maintenant, il y a de ça. Les réseaux sociaux ont fait que... Il y a beaucoup de comptes de la communauté LGBT. T'as beaucoup de... Enfin, on parle, en fait. Et fait de parler et de communiquer, ça adoucit et on comprend plein de choses.
Ouais.
Et voilà, du coup... Ouais, l'homosexualité, l'envie de changer aussi. Il y a des hommes qui veulent devenir femmes, il y a des femmes qui veulent devenir hommes, et il y a des stars qui le font, et du coup, ça amène à s'exprimer, à pouvoir parler. Enfin, c'est incroyable. Et du coup, voilà, un homme, on peut plus le définir, et ça, c'est bien.
C'est clair. Elle est très cool, ta chanson, pour le coup.
Merci.
J'aime beaucoup.
Bah, par contre, voilà, je suis assez positif en ce moment. Hein.
Ouais.
Ça s'entend, mais il y a encore beaucoup de chemin quand même.
Léger.
Hein, on est sur un début.
Sur pas mal de sujets, mais c'est déjà bien. On est sur un début,
mais je sens qu'on prend la bonne direction. Ça, c'est bien.
Exactement. Sur plein de sujets, on parlera un peu d'écologie juste après. Ouais. Et la Surfrider, pour le coup. Je me demandais juste, tu as reçu une récompense au Energy Music Award ?
Ouais, plusieurs fois.
Plusieurs fois, ouais, pas qu'une, pardon. Ça fait. Des dizaines et des dizaines. Non, mais quand même, le fait d'en recevoir, ça te fait quoi ?
Bah, c'est vachement bien, en fait, parce qu'on se sent un peu reconnu.
Ouais.
C'est une consécration, c'est un truc où, voilà, on te dit, voilà, bravo, t'as fait un bon travail.
Mm-hmm.
Et ça, c'est cool. Ça, c'est bien cool. T'as beau dire non, mais moi, les prix, machin. Non, pas du tout.
Ça fait plaisir.
Je suis hyper compétiteur. Moi, je suis très mauvais joueur. Donc, j'aime bien gagner des choses.
T'es bien tombé alors dans la famille de ta femme. Ouais. Ouais. Parce que j'avais vu aussi en préparant les quelques parfois, enfin, avec Florent Manodou, pour le coup, qui est le sœur de l'or, n'est-ce pas ? Une certaine rivalité sur tout ce qui est sportif.
Ouais, sur beaucoup de jeux.
Sauf à la pétanque et aux fléchettes.
Ouais, bah non, il me bat aussi quand même des fois. Mais ouais, les jeux en général, on est assez compétitifs dans la famille.
Et donc, tu disais pardon sur les prix, effectivement, ça fait quand même du bien de gagner, quoi.
Mais ouais, c'est cool, ça fait plaisir que voilà, t'as une communauté qui te reconnaît, qui te... C'est encourageant, en fait.
Mm.
C'est ça qui est bien.
Clairement. J'ai vu aussi, t'as été inspiré par qui en termes artistiquement parlant ?
Pour le deuxième album ?
Oui, pour le deuxième, parce que je pense qu'il est peut-être plus, te correspond plus, en tout cas aujourd'hui, donc oui.
Ouais, bah, en fait, chaque album a des artistes qui m'ont inspiré. Sur ce deuxième album, ça a été vachement Mac Miller.
Ok.
Jacob Collier. Anderson .Paak. Tout ce style de musique-là, un peu funky.
Ouais.
Où il y a pas mal de basses qui chantent, en fait. Et ouais, c'est ce genre de zik-là que je ne savais pas jouer, en fait. Mais que j'avais tellement envie de chanter parce que ça me changeait ma manière de chanter et ça me faisait aller plus loin, enfin ça me faisait travailler, quoi. Et du coup, bah, grâce à toute mon équipe, j'ai pu faire ce style de musique. J'ai pu comprendre que c'était avec ce style de musique que je voulais m'exprimer
trop cool.
Le mieux possible.
Top. J'ai vu aussi que dans tes chansons préférées, t'as Home Again. Alors c'est peut-être toujours le cas ou pas, mais de Michael Kiwanuka, ouais. Pardon. Qui est très cool.
Ouais, c'est une chanson qui me suit pas mal en fait. Qui, ouais. C'est. Je l'ai découvert au lycée, je crois. Mm-hmm. Et je l'ai tout le temps chanté. C'est la première chanson que j'ai chantée à ma femme.
Ok. Mm.
C'est la chanson qu'il y a eu à mon mariage. C'est la chanson qu'il y a eu quand mon fils est né. Ouais.
Ah ouais.
Et sans faire exprès. Hein. C'était une playlist et quand il est né, il y avait cette chanson.
C'est énorme.
Donc elle me suit un peu partout. Ouais.
Et elle raconte quoi pour le coup ? Pourquoi cette chanson en particulier ?
Parce que ça me représente tellement d'être à la maison en fait, de se sentir bien chez soi.
Ouais.
C'est un truc qui est tellement dingue. Moi, ça fait un an et demi que je suis revenu habiter sur le bassin d'Arcachon et j'ai jamais été aussi heureux qu'en revenant habiter là. Mm-hmm. Quand j'habitais pas là, je pensais qu'à ça et du coup, ça m'empêchait de faire autre chose. Mm-hmm. Enfin, ça m'empêchait. Non, pas tellement parce que j'ai fait beaucoup de choses, mais il y avait cette gêne là. Il y a tout le temps eu ce moment où je me disais putain, mais je suis loin, c'est chiant. J'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de cette ambiance-là en fait, du bassin d'Arcachon qu'il n'y a pas ailleurs.
Ouais. Parce que tu étais à Marseille avant pour le coup.
J'étais à Paris 4 ans et après 4 ans à Marseille. Ouais.
Yes.
Et la ville en général, même Bordeaux en fait, ça me plaît. J'aime bien y aller, mais ça ne me plaît pas en fait. C'est l'ambiance du bassin, elle est particulière.
Et plutôt cool.
elle me suffit en fait.
Ouais.
Il y a des gens pour qui c'est trop mou.
Trop calme.
Ouais, il y a des gens pour qui c'est trop calme. C'est bien une semaine en vacances, mais et moi c'est ça qui me plaît en fait. C'est cette monotonie entre guillemets. Cette manière d'être avec les gens, le fait de connaître son boucher, connaître son boulanger, connaître tous les gens autour de soi. Et quand tu sors de chez toi, bah, du coup, tu es rassuré parce que tu connais tout le monde. Mmh. Ça, c'est un truc qui me plaît. Alors après, j'aime bien découvrir. Ça, c'est un truc voyager, j'adore ça. Mais je préfère vivre dans un endroit où je connais.
Où tu te sens bien.
Où je me sens bien.
On va dire normal.
Ouais, je pense que ça, c'est tout le monde pareil. Hein.
Oui, clairement. Après, c'est bien de le savoir. Ouais, est-ce que tu te sens bien ou est-ce que tu te sens le mieux de le faire ?
Après, est-ce que tout le monde peut le faire ? Ça, c'est autre chose. C'est est-ce que tout le monde peut habiter là où il a envie d'habiter ?
Ouais.
Ça, c'est autre chose.
Je reviens sur la Surfrider. Est-ce
ouais.
que tu peux nous en parler ?
Bah, c'est une ONG qui me suit aussi depuis que je suis né.
Yes.
Parce que mes parents m'ont emmené faire des ramassages de plage avec Surfrider. Quand j'étais sauveteur en mer, il y avait un stand Surfrider sur la plage qui analysait l'eau tous les jours. Parce que cette ONG, en fait, elle se soucie de la qualité des eaux des océans et de ce qu'on peut y déverser et de ce qu'on peut y jeter, de ce qui et font des ramassages de plage. Ramassage de plage.
Ramassage de déchets. Et tu fais une plage dans ton jardin. Voilà. Franchement, c'est cool.
Tu fais des ramassages de déchets sur la plage.
Yes.
Alors, ça a un côté nettoyant, ça c'est sûr.
Ouais.
Ça se fait souvent au printemps pour l'été. Mm-hmm. Mais c'est surtout, et ça on le sait pas, pour remonter à la source, analyser en fait ce qui a été déversé tout l'hiver, pour remonter à la source et essayer de stopper. Pas le stopper, mais de le ralentir. Parce que je suis pas bête. Et on n'arrivera jamais à stopper la pollution, le plastique. Voilà. On est des humains, on est en train d'exploser. La population, elle explose. Donc il y aura toujours de la consommation. Il y aura toujours. On créera. Et c'est la nature, c'est comme ça. Mais au moins le conscientiser et le freiner, ça c'est quelque chose qui doit se faire. Et pour le coup, Surfrider essaie de faire du lobbying autour de ces rejets de déchets-là dans les océans. Moi je suis sensible à ça parce que voilà, je vis à l'océan, je voyage en fonction de l'océan, je m'habille enfin tu vois, il y a une manière de s'habiller aussi.
Ouais.
Il y a une manière de parler, il y a une manière d'être enfin je passe mes étés à la plage. Donc c'est un environnement qui me plaît énormément et quand on le dégrade, ça m'embête. Donc Surfrider essaie de se bat pour régler un petit peu ça. Et donc je me suis rapproché d'eux en leur disant que je voulais les aider et donner de ma voix pour diffuser de leur message. Et c'est ce que je fais pendant mes promos, pendant mes concerts aussi. Pendant les concerts, j'explique que voilà, il y a toute la tournée qui a une gourde, chacun a une gourde. Donc on n'utilise pas de bouteilles plastiques. Et je le dis sur scène en disant, voilà, si vous voulez faire un geste, le plus simple, c'est d'acheter une gourde. Ça évitera de jeter énormément de plastique qui se retrouvera obligatoirement dans les océans. Parce que c'est complètement faux, le recyclage, ça n'existe pas tellement. Il y a 80% de déchets plastiques qui ne peuvent pas être recyclés. Donc, ça, je l'explique. Et puis on fait pas mal
d'actions
ensemble. Voilà, on a fait des initiatives Océane. Je voulais faire absolument des concerts avec eux, pour eux. Le Covid est arrivé parce que ça fait un an et demi que je suis avec eux. Je me dois d'être actif là-dedans. J'en ai besoin parce que sans une planète en bonne santé, nous on le sera jamais.
Clairement. Et pour le coup, il y a plein d'initiatives océanes qui ont repris là, je crois, bientôt. Donc, faut aller checker sur le site Initiative Océane, tout simplement.
Exactement.
Très cool. T'aurais un mot pour définir le bassin? L'endroit dans lequel t'évolues. J'ai posé la même question à Joël Dupuche que j'avais reçu à l'épisode 16. Je vais pas te le dire parce que sinon ça pourrait trop t'influencer. Tu vas peut-être utiliser le même.
Je sais pas. Un mot, c'est dur. Hein. C'est cool. Cool.
Cool.
Ouais.
Ok.
Je me sens à la cool chez moi.
Ok.
C'est pas très poétique, hein.
Oui,
je te l'avoue,
pourquoi pas.
Je te l'accorde. Ouais. Mais ouais, c'est plutôt cool, ouais. C'est le premier mot qui me vient là.
Ok. Bah, c'est bien, ça définit bien, je trouve. Juste un retour à la scène prévu pour l'année prochaine.
Ouais.
C'est ça. T'as un peu hâte, j'imagine.
Carrément. Carrément. Bah, j'ai annoncé un premier contact avec les gens cet été, en fait. Je fais 24 dates juillet-août.
Cool.
Où, avec la BPI, on fait le...
Ah, tu fais tout le tour avec eux? Parce que j'ai vu la BPI, je crois que tu étais sur Arcachon. Mais
non, je fais toute la tournée avec eux.
Top.
Donc, je joue une demi-heure en extérieur pour les gens, pour un concert gratuit. Voilà.
C'est cool, ça.
Ouais.
Ça va faire du bien, j'imagine.
Ah bah carrément, surtout que cet album il est fait pour être joué sur scène, il est fait pour la scène.
Yes. T'aurais quoi à donner comme conseil, alors d'abord un conseil à celles et ceux qui ont envie de se lancer dans la musique?
Waouh. Mais ne le faites pas.
Alors, un autre.
Ne le faites pas, c'est pas bien, c'est pas bon. Non, ne jamais se changer, peut-être.
Ouais.
Faire ce qui les représente le mieux, le plus, et pas essayer de prouver quelque chose, enfin faire quelque chose qui les embellit, qui raconte sincèrement ce qu'ils sont. Ce serait ça, être sincère. C'est un peu bateau, mais c'est le mieux, je pense. Bon, après dans tous les métiers c'est comme ça, hein,
c'est ça.
Bon, là, quand même, on te donne le droit de t'exprimer, de t'es payé pour réfléchir sur la vie et en écrire des chansons. Donc, c'est quand même pas mal. Et être sincère, c'est ce que tu dois un peu aux gens.
Exactement. J'arrivais sur les questions de fin, mais on n'a même pas parlé du Pestacle encore.
Mm-hmm.
Tu peux nous en parler pour le coup. Donc, vous avez lancé ça l'année dernière. Je dis vous, parce que vous êtes plusieurs derrière, c'est ça?
On est trois, ouais.
Ouais.
On est trois, deux frères, Igor Saunier, Théo Saunier et moi. Et c'était un peu dans l'ordre des choses. Hein. J'ai tellement écrémé les bars et les restos d'ici que quand Igor est arrivé pour, pour me dire tiens, est-ce que tu serais chaud pour ouvrir un endroit, parce que Igor sort d'une étude d'œnologie, lui il a fait des études d'œnologie, donc le vin il connaît énormément, et il avait envie de monter son endroit. Il m'a demandé de l'aider, et voilà, je l'ai suivi complètement parce que c'est un truc que j'avais envie de faire. Je pense que j'ai l'impression qu'on rêve tous un peu de faire ça, tu sais, d'ouvrir un bar.
Bar ou resto, on n'y est pas. Moi, ça fait des années, je me dis, vers 40 ans, je vais ouvrir, je ne sais pas pourquoi, un resto, tu vois.
On a tous envie de faire ça. Et ben voilà, je l'ai fait. Ouais. On avait envie, en fait, de monter un endroit où les gens se sentent comme chez nous.
Ouais. Lapsus, parce qu'ils peuvent venir chanter.
Ouais, en plus. Ouais. Non, mais c'est vraiment un truc où on s'est dit, vas-y, les gens, ils doivent vivre une expérience. Quand ils rentrent dans cet endroit-là, il faut qu'ils se sentent comme chez nous et qu'ils vivent le délire de comment on vit nous. Mm-hmm. Et donc, en fonction de la journée, en fonction de l'heure, et ils vivent comme nous on vit en fonction de la journée. Donc, t'as le midi, tu vas manger un peu healthy, un peu cool, parce que voilà, on fait à manger, mais on essaie de vérifier, de savoir d'où viennent nos produits et d'essayer de passer au maximum par le circuit direct, et par les locaux aussi. Ouais. Et puis si on vient dans l'après-midi, par exemple, on peut voir. On va essayer de développer quelques expos, des expos photos, des trucs comme ça. Mm-hmm. Et puis le soir, il y a toute cette émulsion, cette effervescence qu'il peut y avoir, comme si on venait chez nous. Si vous venez chez nous, à 18h, on va boire des bières, on va se raconter nos vies, on va faire en même temps à manger. Yes. On va préparer le dîner et puis voilà, on va bouffer et bien boire et bien manger et savoir ce qu'on mange et ce qu'on boit. Mm-hmm. Ça, c'est hyper important, parce que je trouve qu'on l'oublie pas mal et on se fait mal pour rien, en fait. Alors que bon, on pourrait faire attention à ce qu'on bouffe et ce qu'on boit et on se sentirait vachement mieux. Et c'est ce qu'on fait ici. Et puis vu que moi, on m'a donné ma chance de jouer dans les bars de la musique, voilà, j'ai fait cette petite scène où les gens peuvent venir se produire. Il y a pas de style de musique précis, tout le monde peut venir.
Ouais.
Tout le monde est payé. Okay. Ça, c'est important à dire.
Ouais.
Parce que et puis déclaré.
Ok.
Ouais.
Ah ouais. Ah,
parce que ça, c'est pas mal, ça. C'est pas souvent.
Moi, j'ai déjà été payé pour le coup, mais j'ai jamais été déclaré, je crois.
Ben voilà, nous on déclare. Et voilà, c'est un endroit où c'est comme chez nous.
Ok. Top. Et donc on peut y venir manger, boire des coups.
On peut y venir manger, boire, écouter de la musique, discuter. Tout le monde sera ravi de discuter avec vous.
Très cool. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien?
Pouah, putain.
Ah ouais, il était pas prêt.
Demande ça à Michel Onfray, mec, pas à moi.
Je demande ça à tout le monde, je demande ça à tous les interviewés.
Qu'est-ce qui m'anime au quotidien? La vie, peut-être. C'est ça qui fait que je suis debout.
Yes.
Et mon cœur qui bat.
Ouais.
Sinon, je sais pas. Qu'est-ce qui m'anime?
Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin?
L'envie de profiter, l'envie de passer les meilleurs moments de ma vie tout le temps, à chaque fois, avec les gens avec qui je suis, avec là où je suis, j'essaie de passer les meilleurs moments à chaque fois, parce que quitte à être là, autant que ça se passe bien, hein. Tu vois, on n'a pas choisi d'être là, donc quitte à être là, et puis en plus on a de la chance d'être là, il y en a qui galèrent vachement plus, hein.
Ouais.
Donc en profiter et essayer d'être d'être le plus d'en profiter, en fait, c'est ça, profiter de cette vie là
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel t'aimerais qu'on revienne, ou un truc qu'on n'a pas abordé, tu te dis ça pourrait être cool d'en reparler? On a abordé deux trois trucs
quoi.
On n'a pas beaucoup parlé de surf au final. Parce que t'en fais quand même beaucoup, si je ne m'abuse. Mais...
Ouais, on a parlé. J'ai dit que j'allais. Je vivais avec l'océan.
Oui, que tu vivais avec l'océan. Ouais.
Donc, oui, surfer, partir en vacances, ça, c'est un truc que je fais c'est souvent, mais yes. Non, je crois qu'on a, on a un peu tout dit là. Hein.
Ouais. Mm. Et la suite pour toi, c'est quoi? Alors, t'as les.
Et la suite, les, je vais là, je commence à réfléchir pas mal sur. Bah, y a des clips qui vont arriver, mais il y a surtout de la scène. Et donc, je suis en train de réfléchir à comment je vais faire mon prochain concert, quel va être le spectacle.
Yes.
Ouais, je suis à fond là-dessus en ce moment.
Très cool. Et pour ceux qui sont dans les environs, le Big Tour passe le 7 août à Arcachon.
Ouais.
Donc, s'ils veulent venir te voir pendant une demi-heure.
Trop cool.
C'est là. Mm. Merci beaucoup, Jérémy.
Merci à toi.
À très bientôt.
Salut.
Salut. Merci à tous pour votre écoute. Je suis hyper content d'avoir reçu Jérémy Frérot et d'avoir eu son retour d'expérience dans un milieu difficile où les places pour réussir sont chères. Mais c'est possible, avec de belles rencontres et beaucoup de travail, tout est possible. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon, et d'ici là, échangez avec un maximum de monde, prenez soin de vous et poussez la chansonnette à l'occasion.